Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sebastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
C'est un duo que nous accueillons ce soir. Vous connaissez la chanson d'accueil de notre Rooster Antoine National.
Yeah, here come the rooster. Yeah.
Bien le bonsoir, Antoine.
Bonsoir Stéphane, bonsoir Mario, comment ça va?
Ben ça va très bien Antoine, puis là je voulais accueillir parce que tu sais, je voulais pas que Stéphane ait l'air trop tout nu à côté de ta grosse toune d'intro, fait que bien le bonsoir Stéphane, comment ça va?
Salut les gars, ça va très bien.
Et voici la chanson d'intro, je sais pas si elle va durer dans le temps, mais pour ce soir, question d'être équitable. Un gars de baseball.
Ouais monsieur.
Ça nous rappelle Charlie Sheen dans Major League. Alors voilà.
Oui, monsieur.
Tu trouves-tu que ça cote ta toune, Antoine, ou?
Pas vraiment.
Pas vraiment, hein? Écoute, on continue de chercher son intro vite meilleure. Antoine qui est au Saguenay, Stéphane qui est à Baie-Comeau ce soir, donc on en couvre large dans le Québec. Stéphane qui tient des écoles de hockey auprès de la communauté Innu là-bas. Je te souhaite un bon séjour. On plonge dans nos sujets. Logan Mailloux est prêt à faire son entrée véritablement là, dans l'organisation du Canadien. Ça va être un des joueurs les plus épiés au camp des recrues en fin de semaine. Et je sais pas si la porte va s'ouvrir pour lui pour un poste dans l'alignement dès cette année, mais tu sais, à court terme, je pense que c'est un gars qui va aboutir à Montréal. Bien que ça ait été une décision très controversée et que ça a peut-être coûté des postes à du monde, Antoine, est-ce que c'était une bonne décision de le repêcher? Est-ce que les gens étaient plus en colère envers Marc Bergevin, le Canadien, qu'envers ce qu'il avait fait?
Ben écoute, tu sais, faut dire en partant, comme tu l'as dit, tu sais, il a pas encore joué un match dans la Ligue nationale, tout reste à faire. Mais il faut forcer d'admettre que le Canadien, ils ont fait un beau pari dans son cas en se disant que l'eau allait couler sous les ponts, que le temps allait faire son œuvre, puis que on pariait sur la, tu sais, sur la rédemption, puis le fait que on donne une deuxième chance à un jeune. Puis tu sais, c'est bien beau, on le dit à nos enfants, hein, faut avoir une deuxième chance, mais faut le mettre en pratique aussi des fois. Puis je pense que le Canadien a misé sur cette partie-là, a parti sur l'éducation probablement qu'il allait en faire, éduquer ce gars-là, essayer de l'entourer de personnes autour de lui pour qu'il s'améliore, pour qu'il devienne une meilleure personne. Mais une chose est sûre, ce gars-là n'a plus le droit à l'erreur. Son erreur est déjà faite, puis je pense que si c'est un gars intelligent, puis qu'il sait, il s'entoure des bonnes personnes, ben il va avoir du succès, puis il va continuer d'évoluer sur sa route.
Steph, toi?
Totalement d'accord, et je suis d'accord depuis la première seconde qu'on l'a repêché, Logan Mailloux, et j'ai pas changé mon idée deux ans plus tard. À ce moment-là, Logan Mailloux était le meilleur joueur disponible quand le Canadien l'a repêché, mais on sait toute son histoire et puis il a le droit, c'est une erreur de jeunesse, il l'a avoué, il a payé pour et puis il va sûrement payer pour encore longtemps, mais à un moment donné, faut donner une chance à ce jeune-là et puis je pense que depuis deux ans, en fait les efforts, le Canadien l'entoure bien, a fait beaucoup d'efforts pour devenir une meilleure personne. Ceci étant dit, si on parle strictement hockey, c'est une très bonne décision de l'avoir repêché. Et je suis d'accord avec toi, Mario. Moi, je pense que les gens sont pas... ils ont rien contre Logan Mailloux. Et je pense que les gens veulent... Tout le monde est d'accord pour dire « Ce jeune-là mérite une chance. » Quand il y a eu la grogne, c'était contre le Canadien et non contre le jeune.
Et es-tu d'accord avec Antoine pour dire que sa marge de manœuvre, même si on pense que là, il est correct, si tu me passes l'expression, est plus mince? Il ne faudrait pas qu'il...
Oh, c'est certain que là, pour parler de golf, là, il a déjà pris son mort légume.
C'est bon. Exactement. Antoine, voulais-tu rajouter quelque chose là-dessus? Sinon, j'allais vous demander tout simplement, les gars, et Antoine, vois-tu chez le Canadien, là, c'est qui la, derrière Caulfield et Suzuki? Est-ce que c'est un club qui va avoir une bonne attaque? Stéphane a coaché un gardien qui avait pas jamais un gros coussin en offensive. Est-ce qu'on va être capable de développer une bonne attaque? Puis dans combien de temps? Puis où tu la vois, où tu vois l'espoir en attaque derrière Caulfield et Suzuki?
Ben pour ma part, j'aime beaucoup Dak. Je trouvais que il a apporté puis il a démontré l'année passée que c'était un excellent, c'était un bon centre, mais il était meilleur avec eux autres. Fait que, tu sais, quand tu dis en arrière de lui, ben moi c'est à lui je pense immédiatement, mais je le vois vraiment plus haut dans l'alignement parce que quand ils ont eu du succès, Dak était en possession de la rondelle puis Suzuki et Caulfield étaient vraiment loin l'un des autres. Puis c'est ça qui leur a permis d'avoir du succès. Ils utilisaient vraiment la largeur complète de la patinoire quand ils étaient sur la glace et en zone offensive. Fait que lui fait partie intégrante du futur du Canadien, mais c'est sûr qu'il y a encore des jeunes à développer. T'sais, un gars comme Slavkovski, il se fait attendre au camp d'entraînement. T'sais, qu'est-ce qui va se passer avec Slav cette année? Est-ce que il va avoir un petit peu appris, mais il n'a pas joué depuis un maudit bon bout. Puis c'est un petit peu problématique. Je trouve que dans son corps, il a un peu perdu une saison. T'sais, j'aurais aimé ça qu'il joue toute la saison dans un niveau peut-être moins élevé, mais qu'il continue à développer d'autres habiletés que son physique. Puis des fois, faut que tu le fasses tranquillement. Tu vas étape par étape. Puis j'ai l'impression peut-être qu'on l'a précipité. Fait que maintenant, il est attendu au tournant. Puis qu'est-ce qui se passe si la première game à Toronto, là, il se fait frapper encore une fois la tête basse? C'est quoi après ça? C'est plus vraiment sur quel chemin t'enligner dans son développement.
J'espère qu'on l'a pas compromis, hein, Steph?
Non, je pense qu'il est encore très, très tôt pour dire ça. Écoute, je pense qu'il y a 38 matchs l'année passée. Et puis, il y a sûrement beaucoup, beaucoup appris. Moi, j'ai adoré, premièrement, j'ai adoré qu'est-ce que Martin Saint-Louis a dit sur lui au tournoi de golf. Quand Martin dit, écoute, là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du fun. Ça, c'est la première des choses. Et on veut pas tuer sa passion. Sa passion. Puis ça, c'est important, ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut pas, c'est le mettre dans un carcan, dans un système où, défensif ou dans un système précis, on veut le laisser jouer, le laisser se développer puis s'exprimer. Et puis, je suis pas inquiète. Je pense qu'il va avoir une bonne saison. Beaucoup plus mature cette année. Un an de plus. Il est passé à 18 ans. Là. Il n'y a pas beaucoup de gars, les gars, qui jouent à 18 ans dans cette ligue-là. Il n'y en a pas beaucoup. Lui, il l'a fait.
Puis c'est un joueur qui joue avec une...
Vas-y, Antoine.
Excuse-moi, Stéphane. Non, mais j'allais dire, c'est un joueur qui, tu sais, qui c'est pas, c'est un premier choix, certes, mais c'est pas un joueur qui, tu sais, qui change pas le rythme d'un match avec des jeux flamboyants pour le moment. Tu sais, c'est un gars qui est quand même costaud, qui va foncer au filet, qui va faire de la place. Tu sais, un petit peu comme, tu sais, moi, des fois, je le regarde, j'ai l'impression de voir un Milan Lucic de l'époque, qui est gros bonhomme, qu'il en fera pas 100 points. Mais sa présence est sentie sur la glace. Il créait pas des jeux incroyables, mais sa présence était sentie. Puis je pense que, tu sais, quand Slavkovski, ben, c'est ça qui va t'amener. Je pense pas qu'il va t'amener une saison de 100 points, puis une saison de 50 buts, du moins pas pour le moment, puis je serais agréablement surpris si ça arrive, puis écoute, je serais bien content pour lui, mais j'ai pas l'impression qu'on va voir ça. Il va t'amener autre chose, tous les intangibles qui font en sorte que t'as besoin de joueurs comme lui, un petit peu comme Wilson à Washington. T'es content d'avoir un gars comme ça dans ton alignement, un gros bonhomme qui est capable de jouer. Je pense que la barre ou les projections que tu peux entremiser dans son cas, ben, ça ressemble à ça. S'il les dépasse, tant mieux pour le Canadien, ce sera un gros choix à la loterie. Mais moi, c'est comme ça que je le vois évoluer
pour le moment. Oui, puis pour revenir à ta question, Mario, l'attaque du Canadien, je pense que ça dépend beaucoup. On sait tout Caulfield, Suzuki. Ça va prendre plus que Caulfield que Suzuki pour avoir une bonne attaque. Et puis, je pense que la clé pour le Canadien dans les prochaines saisons, on vient justement d'en parler, c'est Slavkovski. S'il peut se développer comme qu'on pense qu'il peut se développer, ça va aider beaucoup. Et éventuellement, c'est certain qu'éventuellement, dans un monde parfait, quand que Slavkovski va sortir de sa coquille, il va éclore, mais ça serait le complément pour Caulfield Suzuki. Là, tu pourrais prendre Dak dans une couple d'années, puis en faire ton deuxième centre. Là, ça commence à être intéressant. Si un new hook peut devenir aussi bon qu'on le dit qu'il peut devenir, mais il reste que c'est d'ici.
On a vu des beaux flashs quand même du grand et jeune numéro 20 l'an passé. Ce qui était désagréable, c'est bon de se faire frapper quand il avait la tête basse, puis de se faire frapper solidement. Ça, il n'y a pas personne qui a eu du plaisir à voir ça. Antoine, tu l'as sûrement vu évoluer avec la Slovaquie aux Olympiques. Stéphane, tu travaillais à l'analyse des matchs à la télévision. Le jour qu'il va être capable de faire ce qu'il a fait dans ces compétitions internationales-là, c'est-à-dire de s'imposer autour du filet, il peut devenir quelqu'un là, dans la ligue. Parce que, je veux dire, c'est un gars qui est fort. Là. Alors, quand il va vraiment être à l'aise puis pouvoir exprimer davantage ses habiletés, c'est ça va être tout. C'est comme un ailier rapproché au football. Là. Il va te dire une affaire, il va être dur à bouger de là.
Ben oui, ben tu sais, c'est comme si on parlait d'éléments. C'est, tu parles de football, ben la comparaison, c'est si t'as un Gronkowski dans ton équipe, c'est un gars gros bonhomme qui est capable de tout faire. Ben c'est un petit peu ça que.
C'est exactement, je disais ça l'an passé. Il y en a qui rient de moi d'avoir fait cette comparaison là, mais c'est exactement la comparaison que j'ai utilisée. Oh oui.
Ben écoute, j'ai dû t'écouter où on fait de la télépathie, Mario, parce qu'on on s'allait. Mais moi, c'est vraiment, même je le vois, tu sais, puis c'est comme ça que tu veux. En fait, faut pas tuer son développement, puis gérer sa confiance en lui, puis tu sais, y aller tranquillement. Des fois, c'est pas parce que t'es un premier choix, faut que tout aille vite. Pour certains, tout va vite. Pour certains, ça va un petit peu plus lentement. Puis c'est de bien évaluer son jeune, puis tu sais, de Montréal, ils s'en vont pas à la coupe l'année prochaine. Prenons le temps de bien développer les jeunes de cette organisation-là, parce que tu sais, si tu leur donnes pas, tu leur fais pas une faveur, si tu les mets devant le fait accompli pour qu'ils performent, puis que ça commence à douter. J'ai déjà vécu une saison où je pensais, tu sais, que j'allais arriver puis que ça allait tout être facile. Puis j'ai perdu toute confiance en moi pendant un an. Puis ça a été long à se rebâtir, cette confiance-là. C'était ma première saison professionnelle. J'avais fini avec un but, 7 passes. Puis, tu sais, j'avais pas un avenir prometteur qui m'amenait jusqu'à la Ligue nationale. Mais, tu sais, cette saison-là, puis l'été qui en a suivi, j'ai tellement eu de la misère. J'ai vu un psychologue sportif, puis elle m'a remis sur les rails. Mais mieux était ça, ben, tu sais, ma confiance était affectée. Il suffit que tu aies un jeune qui est mal entouré, ben à ce moment-là, ben, tu peux prendre des mauvaises décisions, puis ton développement s'en va pas dans la bonne direction.
Wow, c'est vraiment très bon ce que tu nous partages là. Puis tu sais, ils disent, puis Martin disait, on veut qu'il y ait du fun, on veut pas tuer sa passion. Les gars, c'est-tu plus facile à dire qu'à faire d'avoir du fun quand on essaie de s'établir puis de se prouver dans la ligue? Je te relance là-dessus, Stéphane, Antoine, tu peux rebondir. Mais tu sais, avoir du fun, c'est facile à dire, mais tu sais.
C'est facile à dire, mais c'est encore une fois, c'est ton entourage. Si ton entourage te laisse aller puis te dit bon ben inquiète-toi pas, tu vas jouer, aie pas peur de faire des erreurs, et c'est ce que le Canadien fait depuis le jour 1 depuis lundi passé, c'est de tout faire pour protéger ces jeunes en disant que le seul objectif, on disait là de pas parler des séries là, mais le seul objectif c'est une progression, c'est que les gars progressent. Fait que c'est ce que le Canadien fait, protège ses joueurs de la pression. Ils veulent pas mettre de pression sur personne, y compris et surtout Slavkovski. En passant, Slavkovski, là, je me souviens de Mario, on était ensemble quand le Canadien a fait son premier choix au total. Et puis j'ai autant confiance que cette journée-là. J'étais d'accord, c'était notre choix, c'était mon. Et j'ai encore une très grosse confiance en ce gars-là. Il y a tellement de possibilités au niveau de ses habiletés et surtout sa grosseur. Et encore une fois, oubliez pas, 19 ans. L'année passée, 18 ans, 19 ans cette saison, même à 19 ans, il n'y a pas beaucoup dans la Ligue nationale qui jouent à 19 ans.
Absolument. Le fun, Antoine, avoir du fun.
Non, c'est vrai, mais tu sais, le fun, ça me parle tellement, parce que moi, c'était mon mantra. Je me souviens que, tu sais, quand je faisais ma visualisation d'avant-match, là, ben, tu sais, je visualisais que je voulais avoir du plaisir. Puis le plaisir, là, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec mon garçon l'autre jour, puis je disais, tu sais, si tu veux avoir du plaisir, ben le plaisir, c'est quoi avoir du plaisir quand tu joues au hockey? C'est d'avoir la rondelle, c'est de faire des jeux. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'avais mon plaisir en jouant au hockey. Mais il fallait que je travaille pour aller chercher la rondelle, il fallait que je sorte du coin avec, il fallait que je trouve des moyens de protéger cette rondelle-là. Ben c'est ces petites étapes-là, ces petites victoires-là que tu fais l'une à la suite de l'autre, que tu sens progresser, puis qu'à un moment donné, tu sais, tu montes d'un niveau, puis tu commences peut-être, dans son cas, ce sera sur un quatrième trio, puis après ça, boum, tu vas tomber sur un troisième, puis après ça, tu auras plus de temps de glace, tu auras plus d'opportunités. Tu sais, chacun construit sa pyramide puis ses marches à lui. Tu sais, moi, dans mon cas, puis je veux pas ramener ça à moi, mais tu sais, c'est comme ça que j'ai construit ma carrière, c'est que je montais une étape à la fois, puis je voulais dominer dans chaque ligue dans laquelle je jouais, dans mon rôle à moi. Puis j'ai fait graduer dans la Ligue nationale parce que à un moment donné, je dominais dans la Ligue américaine. Dans mon, tu sais, là, allez pas tout voir mes statistiques, là, vous allez dire c'est de quoi il parle, lui, il a dit trop de bière de la voix maltée, mais je dominais dans mon rôle à moi, puis c'est ça qui a fait en sorte que, tu sais, je jouais contre les Blackhawks de Stéphane à l'époque, puis tu sais, il s'arrachait la tête, les cheveux de la tête parce que j'étais une tête, mais je dominais dans ce rôle-là à ce moment-là, puis c'est ça qu'il faut qu'un jeune évalue. C'est de faire y aller par étapes, puis pas, tu sais, comme un éléphant, tu le vois pas tout de suite, tu veux pas le manger tout au complet, tu vas étape par étape.
Exact.
Ouais, exactement. Puis t'as tellement raison. Puis ça, là, c'est quelque chose, avoir du plaisir. C'est quelque chose, OK, on parle de professionnel, on parle de Ligue nationale, mais à chaque année, à mes écoles de gardien de but, c'est ce que je dis aux parents, assurez-vous que votre jeune ait du plaisir. Puis s'il y a du plaisir, il y a des chances qui aime ça, puis s'il aime ça, mais il va performer. Et puis, je disais la même chose avec le meilleur gardien de but au monde, Carey Price. Il y a des fois qu'il voyait qu'il prenait beaucoup de pression, et puis je disais, Carey, have fun, assois-là, va-t'en à la net, puis fais semblant que tu goals, que tu joues sur ton petit lac là, à Anaheim Lake, que t'es gardien de but sur ton petit lac. Et puis, c'est ça, avoir du plaisir. C'est tellement important.
Mais ce que j'aime de vos deux énoncés, de ce que vous avez dit, c'est comment en avoir ou comment le retrouver. Antoine, t'explique comment t'allais le chercher, c'est pour les jeunes qui écoutent, parce que comme je dis toujours, have fun, c'est bien facile à dire. Mais donc, toi, ah oui. Tu suggérais quelque chose, puis c'est de trouver sa recette pour avoir du plaisir. Parce que des fois, quand on dit avoir du plaisir, je sais pas si on fait le lien au fait qu'il faut que ça soit en jouant au hockey. C'est parce qu'à la base, quand t'as aimé ça, le hockey, c'est parce que t'as eu du fun dans ta barouette quand t'étais jeune à le jouer. Là, c'est difficile de retrouver. C'était esprit-là complètement quand t'es rendu dans la business. Antoine, tu l'as vécu, Stéphane aussi.
Ben non, c'est sûr, mais tu sais, je le découpais en plusieurs facettes. La facette, c'est premièrement, si je bouge pas mes pieds puis je rentre pas au filet ou j'ai pas la rondelle, je touche pas au puck de la soirée, ben, j'en aurais pas de fun. Tu sais, j'en ai connu des saisons où je courais après le puck, je rentrais chez nous, là, puis j'étais débiné, j'avais zéro plaisir, puis ça, c'est, tu sais, quand tu crées, en tout cas, moi, ce que j'aimais faire, c'était créer de l'offensive. Puis, tu sais, j'étais pas un joueur offensif, mais j'aimais ça. Puis, je calculais souvent à Dallas, quand j'avais mes meilleures saisons, ce que je faisais, je regardais, mettons, les passes que je faisais dans l'enclave. Puis, je pense que je t'en ai déjà parlé, Mario, de ça, mais,
oui, oui.
Tu sais, à chaque fois que je faisais une passe dans l'enclave, ça me donnait un plus. Une chance de l'autre équipe dans l'enclave, ça me donnait un moins. Mais non, mon objectif, à la fin de chaque match, c'était dans les plus. Puis d'être le gars qui faisait la passe au gars dans la slot.
C'est toi qui t'as inventé ce système-là d'auto-évaluation, Antoine? Non,
il y avait, ben, les équipes ils ont des systèmes, puis t'es capable de le voir. En tout cas, sur le système que Dallas avait, t'étais capable de le voir. À Vancouver aussi, c'était un petit peu plus difficile de l'obtenir, mais je l'avais aussi. Mais c'était important pour moi. Un jeune, maintenant, comment il fait? Ben, tu vas au feeling de comment t'as... Si t'as fait des passes, tu vas t'en souvenir, tu vas te rappeler de tes jeux. Ben c'est ça qui m'allumait. Pour d'autres, ça va être de recevoir puis de marquer des buts. Mais si t'en marques pas, ben faut que tu trouves tes petites victoires comme ça en créant de l'offensive. Puis c'est ça qui m'a gardé en vie quand après ma saison de un but, 7 passes, ben ça a été une saison de 3 buts, 5 passes. Puis ça a été quand même positif. Hein.
Quelqu'un qui réussit pas, juste pour finir sur, parce que tu sais, c'est une belle discussion, puis je voulais pas l'étouffer trop vite, mais quelqu'un qui est pas capable de se trouver des outils, une façon de, puis tu sais, c'est applicable pour les gens qui nous écoutent en dehors du hockey, dans chacun dans nos travails. Donc, quelqu'un qui est pas capable, dans des moments plus difficiles, de recréer, de renouer avec le plaisir, Steph, il y en a qui doivent sombrer plus creux encore un peu,
oui,
là.
Oui, oui. Hein? Puis en quelque part, là, c'est la job des entraîneurs aussi. De faire que son joueur peut avoir du plaisir. Puis ça, tu le vois, ça, si ton joueur n'a pas de plaisir. Puis ça, c'est la job des entraîneurs, au moment donné, de le prendre à part, qui a ramené les choses. Parce qu'on dit jouer au hockey, hein. On dit pas travailler au hockey, on dit jouer au hockey. Ça, ça fait c'est une grosse partie de la job des entraîneurs de s'assurer que ses joueurs ont du plaisir à jouer.
C'est vrai, une bonne communication, ça fait tout, ça peut tout faire toute la différence. Tu sais, de montrer à ton joueur que t'es impliqué puis tu t'intéresses à lui, puis que tu cherches son développement surtout. Ben ça c'est la clé, parce qu'un joueur qui est tout seul puis que l'entraîneur lui parle jamais puis qui broie du noir, ben ça fonctionne pas non plus. Puis le coach ne cède pas. Tu sais, c'est un talent qui est pas exploité au maximum. Ta job, c'est de les exploiter au maximum, ces talents-là. Fait que si t'es pas capable ou tu fermes ton canal de communication, ben à ce moment-là, t'es pas à bon escient, t'es pas efficace.
Les gars, je termine avec une remarque. Steph, pardon.
Une remarque en passant, c'est que je peux voir, même si c'est des saisons perdantes, je peux voir que depuis que Martin Saint-Louis est en poste, ça, c'est une grosse qualité que Martin a. Ses joueurs ont l'air d'avoir du plaisir. Ça, là, Martin, c'est un ancien joueur. Ça, il est très bon là-dessus.
Très, très important. Je finis avec une petite remarque là, qui m'est apparue intéressante, puis peut-être un commentaire chacun avant de vous saluer pour la fin de la soirée, les gars. Trouvez-vous étrange qu'on considère encore l'Avalanche du Colorado comme un aspirant très sérieux à la Coupe Stanley, avec un flanc gauche qui sera composé d'Arturi Lekkonen, Tomáš Tatar et Jonathan Drouin?
Ça dépend du coach, comment il les utilise, comment il est capable de profiter au maximum de ces joueurs-là. Puis écoute, j'ai hâte de voir. Pour de vrai, la dernière fois, tu m'as posé la question, Mario, qu'est-ce que tu as hâte de voir? Ben, c'est drôle, tu viens de me parler de Jonathan Drouin. J'ai hâte de voir sa saison au Colorado. J'ai hâte de voir comment il va rebondir là-bas. J'ai hâte de voir. Tu sais, c'est des petites victoires de même sans espérer le maximum, mais j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner.
Stéphane, pour le mot de la fin?
Oui, bon point. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça, mais écoute, c'est toute une question de comment ils sont entourés. Ces trois joueurs-là, ces trois anciens petits Canadiens-là, dans un environnement comme le Colorado, ça peut être totalement différent. Donc, oui, j'ai pas de misère à croire que l'Avalanche peut être des aspirants avec cette flanc gauche-là.
Qui fait le plus de points parmi les trois? Lekkonen, Drouin ou Tatar, la petite dernière?
Tatar, c'est sûr. Tatar, c'est un gars de saison.
OK. Antoine, un gars de saison.
Ben, moi, je vais y aller avec Lekkonen parce qu'ils vont le mettre encore une fois avec McKinnon, puis ça va faire des flamèches.
Les boys, ça fait des belles flamèches ce soir. de gentilles flamèches. Un bel échange. Merci, Antoine. Salut, mon Steph. Bonne fin de soirée, les boys. Bye.
Merci, bonne semaine, les gars.
Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Avec Guillaume, bien le bonsoir mon Guillaume, comment ça va?
Salut Mario, ça va très bien toi?
Oui, ça va très très bien. Dis-moi, tu sens-tu plus d'intérêt chez tes amis amateurs de hockey pour le camp des recrues cette année que, disons, d'habitude? C'est sûr qu'il y a plus de recrues qu'il y en a déjà eu dans le pipeline du Canadien, là, qui n'était pas très très garni à une certaine époque, pas si lointaine. Hein?
Ouais, mais on dirait que les gens, ils veulent espérer. Hein? Tu sais, c'est vraiment ça la réalité. Ils veulent se dire... Dans 3-5 ans, c'est ces jeunes-là qui vont ne pas gagner à la Coupe Stanley. Tu sais, fait que oui, je te dirais que j'entends parler du monde, j'entends parler les gens par rapport aux recrues. Tu sais, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que les recrues ont un plus gros, on les connaît un peu plus. Tu sais, on dirait qu'on a des noms en tête, puis on a des visages en tête, puis on est capable de les visualiser. Mais oui, les gens ont pas été gâtés des dernières années. Fait qu'on dirait qu'on On dirait qu'ils ont hâte. Ils ont hâte, ouais.
Hier, tu nous as ouvert les yeux. En fait, tu as commencé à parler de tes, pas de tes craintes, mais de tes soucis par rapport à la qualité de l'attaque qu'on aura. Quand tu regardes derrière Coffey des Suzuki, puis il y a peut-être de ces ingrédients-là qui sont au tournoi des recrues en fin de semaine, puis qui joueront même pas pour le Canadien cette année. Mais quand tu regardes ça se développer d'ici 3, 4, 5 ans, ça va-tu être une attaque comme celle que Carey Price avait devant lui, ou ça va être une meilleure attaque qu'on a eue dans, disons, dans les dernières 10, 15 années en général?
Ben, c'est, moi, je suis de ceux qui faisaient vraiment confiance à Marc Bergevin, honnêtement. J'ai adoré son parcours ici. Mais j'adore l'approche Kent Hughes, Jeff Gorton. J'adore ce qu'on est en train de bâtir chez le Canadien. Je pense qu'on a une évaluation qui est directement dans le chemin qu'on veut prendre. Fait, est-ce que on est parfait? Est-ce qu'on est à la bonne place? Je pense que le jour venu où dans 2 ans, 3 ans, où ce qu'on va dire, OK, c'est cette année que ça se passe, puis on rentre en série, puis on veut faire un push en série, je pense que Jeff Gorton puis Kent Hughes vont avoir évalué les choses, puis il va avoir de l'argent pour signer un joueur autonome qu'on s'attend pas. Et il va y avoir des joueurs qui vont arriver d'ailleurs ou une transaction. On l'a vu quand même, il a fait partie de la transaction Pittsburgh-San Jose pour Carlson. Il est juste là, mais il est toujours impliqué. Il y a toujours un petit grain de sel à quelque part. Puis je trouve que Kent Hughes, c'est sa force. Puis quand va arriver le temps venu, il va avoir déjà pensé 2 coups avant les autres pour se garder de l'argent puis aller chercher un gros joueur. Fait que je regarde pas trop l'offensive. Je regarde pas trop. Oui, Suzuki, Caulfield, ils ont besoin d'être appuyés. Tu sais, juste Alex Newhook, là, c'est pas un sauveur. Mais je pense qu'Alex Newhook, dans un rôle où ce qu'il y a pas Landeskog, Rantanen, McKinnon, Girard, Makar en avant de lui, je pense qu'il va en surprendre plusieurs. Fait je me retrouve dans cette situation-là où même la même affaire que Kirby Doc, je pense que Kent Hughes, c'est un gars qui est capable de voir le talent, puis est capable de le voir peut-être plus vite que certains, puis il va nous surprendre avec certaines transactions comme ça. Puis le temps venu, quand ça va être le temps de dire « OK, là, on y va all-in, on est là, là », je pense qu'il va nous surprendre.
Je vais décortiquer ça en deux temps par rapport... Oui, moi aussi, je me dis, on va acheter ce qu'on va pas être capable d'avoir via le pipeline du repêchage ou via le développement, mais puis c'est pas une question piège parce que je te la pose à mesure que j'y pense, ouais. Guillaume, fait que j'ai pas la réponse, là, moi non plus, mais tu sais, vite fait, là, c'est qui le dernier gros joueur autonome à part, mettons, Marianne Ossa, qui avait signé avec Chicago, qui était disponible pour venir bonifier une équipe qui était prête à gagner. Il y en a pas souvent des gars comme ça. Fait que, autrement dit, t'as besoin d'avoir repêché comme faut puis de développer comme faut, parce que si tu te fies sur le fait que il y a un gars qui va être disponible, je m'en souviens pas de ben d'autres gars comme Ossa, Guillaume. Je sais pas s'il y a des noms qui te viennent en tête, là, mais c'est rare comme du...
Non, je suis d'accord avec toi. Souvent, c'est peut-être plus de la profondeur ou d'aller chercher un petit spark, un petit quelque chose, mais il reste que pour moi, tu sais, on va oublier dans 3 ans, on parlera plus que Kirby Doc, c'est une transaction qu'il a faite, qu'il a rien, presque, tu sais, c'est une belle transaction. Newhook, comment qu'il va réagir, comment qu'il va grandir dans l'organisation. Fait puis je trouve que plus qu'on va arriver, tu sais, hier, on avait Jonathan Marchessault hier au podcast, puis
oui.
il nous a dit clairement, parce qu'on lui a demandé, t'es-tu nerveux d'être transigé, il te reste 1 an de contrat. Il dit, j'ai gagné le consommateur de la Coupe Stanley, j'ai prouvé que je peux être un marqueur de 30 buts, je vais me faire payer le nombre d'années puis la valeur que je vaux. Puis je pense que plus qu'on va avancer dans le hockey, puis les jeunes, comment ils se respectent comme joueurs puis comme athlètes, je pense qu'on va avoir plus de joueurs autonomes surprenants peut-être, ou de joueurs sur le marché qu'on est habitué ou qu'on s'attend, parce que les jeunes vont prendre leur place. Puis tu sais, Marchessault, c'est un peu ça qu'il a dit. Je finirai pas en bas de ma valeur. Fait que si ça passe par une transaction, ça passe par une transaction. Fait que quand mettons que t'arrives dans 3 ans, puis un joueur comme Jonathan Marchessault, là, je nomme Marchessault, mais
oui, oui, je
un
comprends.
Joueur comme lui dans 3 ans arrive puis il est disponible. Ben, je m'excuse, mais il change ton alignement de tabarouette, là, tu sais.
Ouais, dans le cas, je comprends que c'est un cas type, là, que tu utilises. Tu utilises Jonathan pour ça, puis c'est intéressant qu'il dise ça. Mais, tu vois, mettons, lui, il va avoir 33 en décembre de cette année, là. Fait qu'il va avoir 35, 36. Peut être encore un bon joueur. Mais, tu sais, tu pourras avoir un Marchessault de 27 ans qui pourrait tester son autonomie. Comme Dubois étant en position de le faire récemment. Mais, sauf que, c'est ça. Faut que t'aies l'argent puis la place pour l'accueillir. Puis je pense que c'est ça. Hughes va gérer de façon à garder cet espace-là disponible. Si je te pousse une coche plus loin dans l'analyse, encore une fois, on est dans grosse projection, mais vois-tu là, tu sais, c'est correct d'espérer, puis t'as tellement raison quand tu dis les gens aiment espérer, ça c'est sûr. Puis c'est le fun de vivre d'espoir, mais vois-tu vraiment les ingrédients de base d'une future équipe aspirante ou d'une future bonne équipe?
Oh, ça, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que honnêtement, il va falloir évaluer la réaction puis comment Montarbo va réagir parce que on n'a rien présentement dans le pipeline d'un gardien qui me dit « OK, on a vraiment un gardien numéro un qui va nous gagner les Coupes Stanley comme Carey Price. » Ça, pour moi, on n'en a pas encore. Puis après ça, c'est de voir. Je pense qu'on va avoir une très bonne défensive qui va être capable de faire progresser l'attaque puis d'aider les gars. Puis de mais on est mince encore en attaque, là. Va falloir vraiment que on réussisse à emmener des joueurs qui sont des gars qui peuvent faire la différence, ce qu'on n'a pas pour moi encore. T'sais, on a Suzuki, Caulfield, je suis d'accord. Est-ce que Monahan peut être en santé? Est-ce que New York peut donner ce gars-là? Est-ce que Harvey Pinard peut donner? T'sais, quelle est la valeur réelle d'un Anderson, d'un Gallagher? Fait que pour moi, en ce moment, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac où on a besoin d'aller chercher des joueurs qui vont être intéressants puis qui vont être capables de dynamiser un peu cette offensive-là qui, présentement, oui, je suis d'accord que c'est un peu faible.
Tu parles d'espoir toutefois, Guillaume. J'espère que parmi tous les choix de repêchage, dont certains sont au camp des recrues déjà, si on regarde des gars qui vont être utiles, qui seront utiles dans quelques années, j'espère que le Canadien a frappé un coup de circuit avec quelqu'un qu'on ne sait pas encore que c'est le coup de circuit. Tu sais, un Braden Point ou un autre, tu sais, un gars de troisième ronde, tu sais, ça va dans tout ça, là, ça va en prendre une coupe, au moins un ou deux qui vont devenir des gros guns en attaque, des gars efficaces. Puis j'espère qu'ils sont déjà qu'ils sont déjà à même l'organisation sans pouvoir dire c'est lui qui va le devenir, tu sais.
Ouais, je suis 100% d'accord avec ça, mais tu sais, mettons un gars comme Braden Point, là, si le Lightning de Tampa Bay n'est pas une organisation qui investit beaucoup d'argent dans le développement, puis beaucoup de temps au niveau de la Ligue américaine sur les jeunes, puis sur le développement individuel, puis sur payer des coachs de nutrition, des psychologues, des gars de patinoire, des gars de power skating, des gars de power shooting. Le Lightning est probablement dans les équipes qui investit le plus d'argent. Fait que je pense que Braden Point serait pas le même joueur aujourd'hui s'il n'avait pas eu son parcours qu'il a eu dans la Ligue américaine avec les investissements du Lightning de Tampa Bay. Fait que peut-être qu'on en a un du côté du Canadien, mais est-ce qu'on a vraiment investi l'argent, tu sais? Puis quand je dis ça, je parle pas de Jean-François Hull puis son staff, parce que eux autres, sa job, c'est coacher une game de hockey,
ouais,
développer un système de jeu collectif. Moi, je parle de développer des aptitudes individuelles. Moi, je pense qu'on a besoin encore chez le Canadien, même si sûrement qu'on en met plus que 5 ans, d'encore dépenser de l'argent. Il n'y a pas de raison que le Canadien soit pas l'équipe qui dépense pas le plus d'argent au niveau de l'aptitude individuelle, au niveau de power skating, au niveau de power shooting, au niveau de faire du vidéo avec les joueurs individuels sur du IQ, sur du développement, sur ces choses-là. Moi, je trouve que ça, c'est un gros step qu'on doit prendre. Puis Lightning, je connais pas le montant qu'on dépense sur ces choses-là, mais je suis certain que Braden Point tombe dans les Hurricanes de la Caroline, puis je nomme cette équipe-là, a peut-être pas la même carrière qu'aujourd'hui de par le développement et la façon qu'on gère les gars dans la Ligue américaine.
Très intéressant, mon cher Guillaume, et puis pas mal le fun de t'entendre là-dessus. Juste une petite en terminant. Quand t'entends des choses, tu sais, ben, t'animes avec Maxime un podcast, c'est un paquet d'anecdotes, pis c'est savoureux, le monde aime ça, les anecdotes, les potins, mais quand t'entends des histoires comme Andrew Shaw qui fait un petit peu de médisance sur Piqué Subban sans avoir joué avec, comment tu réagis quand tu prends connaissance de ça?
Ben moi je reste toujours, ce que je raconte et ce que j'ai, c'est ma vision comme joueur. J'ai été chanceux d'être dans un vestiaire. J'ai été chanceux d'avoir ce talent-là pour être dans ce vestiaire-là. Fait que ça m'amène un certain privilège. Mais je parlerai jamais d'un joueur sur des choses que j'ai entendues de. Et moi, si je te parle d'un gars, je l'ai vécu. Puis si j'ai pas joué avec, je vais pas parler de ce joueur-là.
Mm-hmm.
Je vais pas dire lui ça ou ça ou ça ou j'ai entendu. Non. Je vais lever. Puis ça veut pas dire non plus que parce que moi j'ai joué avec, que j'ai la science absolue, puis j'ai raison à 100% non plus. T'sais. Fait qu'il faut toujours faire attention sur les opinions des gens par rapport. T'sais. Puis hier, encore une fois, avec Marchessault, on a eu un exemple parfait. T'sais, Jack Eichel, il dit, je comprends pas que les gens parlent de lui comme on parlait de lui à Buffalo. T'sais. Il dit, c'est un exceptionnel qui veut être le meilleur, qui s'entraîne probablement le plus des Golden Knights, qui est toujours prêt. Il dit, je comprends pas qu'on dise ça. Fait qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on rapporte
dans les médias ou ce qu'on rapporte dans les anciens joueurs qui ont des tribunes qui n'ont pas joué avec ces joueurs-là.
Oui, oui. Ryan O'Reilly, on ne disait pas juste des choses positives à son sujet, puis il est devenu un élément important par la suite avec les Blues de Saint-Louis. Des fois, il y a un petit fond de vérité, mais des fois, c'est l'environnement aussi. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer des fois un changement de comportement. Puis tout le monde a le droit d'apprendre aussi en avançant puis en évoluant, tout simplement.
C'est pas tout le monde qui sont faits pour être le premier en avant. Là,
c'est vrai, ça.
Celui qui traîne le drapeau en avant là, aux Jeux Olympiques, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ça veut pas dire que le gars qui est troisième en arrière, il est pas aussi important que lui qui le traîne le drapeau. Puis des fois, quand on regarde un Jack Eichel, par exemple, à Buffalo, ben c'est lui qui traînait le drapeau puis il le traînait tout seul. Fait que oui, quand on regardait son body language, oui, quand on regardait...
Carrie à Montréal.
Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est pas tout le monde qui est fait pour être cette personne-là. Mais bien appuyé, ces personnes-là deviennent meilleures puis deviennent ce qu'on s'attendait d'eux.
Excellent, mon Guillaume. Bonne chronique encore ce soir. Je te souhaite une bonne fin de soirée puis on se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine. Tiens. Fait que...
Les amis, bye-bye.
Bye-bye, Guillaume.
Bye. Salut, bye-bye.
Au retour, il est sur le point d'entreprendre une nouvelle saison avec les Flames de Calgary. Jacob Pelletier est notre invité.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Il s'apprête à entreprendre une nouvelle saison dans l'organisation des Flames de Calgary, puis j'espère que ça va être avec le club d'en haut. Selon toute vraisemblance, ça va être le cas. Lui qui a joué ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey la saison dernière avec les Flames. Une organisation qui collectivement a déçu puis qui espère se reprendre cette année. Jacob Pelletier, choix de première ronde de l'organisation il y a 2 ans, était avec nous ce soir. Bonsoir, Jacob.
Bonsoir.
C'était le tournoi de golf des Flames, si je me trompe pas, aujourd'hui ou hier, hein?
Oui, c'était hier.
Puis c'était un peu les retrouvailles, un petit peu comme à Montréal. C'était-tu la rentrée pour tout le monde dans votre cas aussi?
Oui, exact. Tu sais, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient présents. Je pense qu'il en manquait peut-être 2 ou 3. Mais je pense que pour la plupart, là, tout le monde a eu une très belle journée.
Ouais. Dis-moi, parle-moi de l'été que tu as connu, sur quoi tu voulais travailler, comment t'as géré ton entraînement, puis avec quelle idée en tête, dans quel état d'esprit tu t'amènes au camp cette année en 2023?
Tu sais, je pense que pour moi, la plus grosse affaire, c'est de prendre un petit peu de poids, tu sais, d'être plus solide, de moins me faire tasser facilement. Tu sais, là, j'ai pris 6 livres de muscles, fait que pour moi, tu sais, je pense que c'est très gros. Puis, tu sais, là, je pense que j'ai une solide en tête, puis c'est de commencer en haut, là.
C'est-tu difficile de prendre du poids, Jacob? C'est difficile d'en perdre, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile d'en prendre aussi. Si tu veux en prendre de la bonne façon, évidemment.
Non, c'est sûr, mais tu sais, je pense que j'ai quand même été géré avec les fins. Tu sais, j'avais un plan alimentaire. Puis, tu sais, je pense que si tu le respectes, tu sais, je pense que pour moi, ça allait quand même bien été. Puis, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu as retenu de tes premiers matchs dans la Ligue nationale? Tu en as joué 24 l'an passé. Des fois, tu n'avais pas des grosses minutes de glace, mais quand même, tu y as goûté, tu y as touché. Qu'est-ce que tu en as retenu?
Ah, ben, tu sais, c'est sûr que c'est comme un rêve un peu. Tu sais, quand j'ai commencé ma première game, c'était vraiment un choc un peu. Puis, tu sais, après ça, une semaine et demie après, je jouais avec Kadri, puis. Mon bon chum Yubi, fait que c'était comme une teinte, puis pour vrai, ça a vraiment été un rêve. Puis j'ai été là 3 mois en haut, puis c'était comme justement un rêve là, que j'étais pas capable de réaliser ou de comme dire ok là, c'est vraiment vrai là.
Wow. Puis quand on le vit de même un petit peu comme on se pince pour voir si c'est vrai, comment ça se traduit en performance? C'est-tu difficile d'être complètement comme concentré sur la performance ou il y a de quoi d'intimidant dans cet univers-là à apprivoiser avant d'être complètement soi-même?
Ben, c'est sûr que c'est intimidant au début, mais après une semaine ou deux, je pense que tu deviens toi-même un petit peu plus. Puis après, pour moi, là, après, je vous dirais la game 4 ou 5, là, je pense que c'est pas mal là que j'étais le plus à l'aise.
Quand tu dis UB, c'est Jonathan Huberdeau. Qu'est-ce qui. Je sais pas si tu le connaissais avant d'arriver, avant qu'il soit échangé aux Flames.
Non.
Puis, non. Et qu'est-ce que tu as développé comme complicité avec lui?
Ben, tu sais, quand je me suis fait called up, ça a été le premier gars qui est comme venu me voir, puis félicitations. Puis après ça, j'étais pas mal souvent avec. Tu sais, je me rappelle quand on était à New York, il m'a dit c'est la première fois à New York. Là, j'étais comme oui, puis les équipes, par contre, tu t'en viens, c'est moi qui te sors à soir, puis tout. Puis tu sais, pour moi, tu sais, ça a comme été mon mentor un peu. Puis finalement, tu sais, je pense que je peux dire que c'est un de mes bons amis là.
Ben tant mieux si ça a cliqué. Puis c'est veut pas d'avoir un gars de chez nous qui parle ta langue. Vous êtes les deux seuls, à part Martin Gilina. Martin est encore dans l'organisation, ouais, c'est ça. Fait que vous êtes pas mal les deux seuls, oui.
Oui, exact.
Exact. Je me trompe-tu, Jacob, ou après, bon, le fameux point de presse très médiatisé de Daryl, là, quand il fait allusion à toi, que après ça, ça de loin, là, ce que j'ai senti, que ça a provoqué que. Est-ce que les joueurs comme t'ont adopté plus vite ou le public t'a-t-il adopté comme pour compenser un peu pour ce que nous, de l'extérieur, on percevait comme qui était peut-être un manque de considération?
Ouais, peut-être. Je pense que les fans plus. Les joueurs savaient c'est qui. Daryl, je pense qu'ils savaient c'est quoi qu'ils faisaient. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils ont trouvé ça plate. Mais je pense qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Puis je pense pas que ça allait déranger tant de monde. Là.
Non, c'est ça. Mais je me demandais si comme on dirait que le public, quand, en tout cas, j'ai eu l'impression que le public t'avait pris dans ses bras d'une certaine façon.
Ouais, vraiment.
Oui, hein, c'est ça que t'as senti.
Ouais, vraiment. Je pense que c'est ça a comme fait un gros boom là, pendant la première semaine. Que là, je sais pas, je pense que ça sortait un samedi, puis là, pendant une semaine, tout le monde venait me voir puis me parlait puis tout, mais c'est ça, je pense que les fans m'ont comme c'est ça, pris un peu, puis c'était comme beau un peu à voir.
Ben mais hein, puis j'étais bien content pour toi, puis encore une fois de l'extérieur, bon, je connais un paquet de monde qui ont connu les frères Sutter, qui ont joué pour Daryl, qui l'ont connu, mais tu sais, au-delà de ce qui sort de l'extérieur, malgré le fait qu'il a été remercié à la fin de l'année, je parle pas juste de toi, mais le club, ça a-tu bien fini avec lui, ou c'était quand même un peu ordinaire, plus ça allait vers la fin de la saison, ou il y avait quand même au plan humain une espèce d'échange ou une complicité avec, ou c'était comme terminé?
Ben moi personnellement, ça a quand même bien fini avec. Je veux dire, c'est sûr, là, mais je sais pas pour tout le monde, là, mais pour moi, je pense que ça a quand même bien fini. C'est ça. Je pense que ça va être un vent de fraîcheur un peu qui s'amène. Puis je pense que l'équipe est prête à avoir une très grosse saison.
Ben justement, à quoi vous vous attendez, puis qu'est-ce que ça signifie pour toi, Ryan Noska, que tu as appris à connaître un peu? L'avais-tu connu avec le club école, ou tu l'as connu vraiment comme assistant?
Non, moi, je le connais comme assistant coach avec les Flames.
Ah, d'accord, parce que c'est vrai, il était d'une autre organisation. Fait que pensez-vous vraiment que les Flames peuvent rebondir solidement cette année? C'est ça que vous vous dites entre coéquipiers?
Ouais, c'est sûr. Je pense que plusieurs joueurs ont une saison à faire oublier ou veulent se rattraper un peu. Puis là, il y aura un nouveau vent de fraîcheur. C'est ça, comme je disais, avec un nouveau coach, un nouveau GM. Fait que je pense que ça va faire du bien. Puis je pense que les jeunes comme moi, Coronado, Zary, Wolf, tu sais, c'est des jeunes qui ont grandi avec soit les Wranglers ou à Stockton, tu sais, qui sont prêts à entrer en haut, puis ça va être à nous de pouvoir prouver ça au camp, là.
Et toi, personnellement, est-ce que tu t'es fixé des objectifs, Jacob?
Ben, mon premier but, c'est de faire un club, puis après ça, c'est de pouvoir aider le club à gagner soir après soir, là.
T'es-tu établi à Calgary ou t'es en attente d'avoir comme la validation? Je parlais avec Vincent Desharnais des Oilers Edmonton qui dit lui qu'il a pas pris de logement, il a pas signé de bail, puis il attend de faire le club. T'es-tu dans le même état d'esprit?
Ben nous, peu importe c'est où qu'on joue, la E est ici ou les Flames, fait que peu importe, c'est
ça, change rien.
C'est sûr que
je vais. Ben oui, c'est vrai. C'est comme Laval ou ouais, à la limite, exact. Tu peux changer peux déménager à quelques blocs ou à quelques coins de rue, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Ça dépend exact. Du contrat que tu viens de signer. Puis là, c'est une grosse année pour toi parce que tu vas négocier après l'année en cours. Ouais. Ben, Jacob, ouais. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. Puis la meilleure des saisons. Dis salut à Jonathan. Puis let's go, les boys.
Yes, un gros merci, c'était gentil.
Ben, merci à toi. Soirée. Toi aussi, Jacob. Jacob Pelletier, donc, choix de première ronde en 2019 des Flames.
C'est 23.